Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Chapitre 1er, Tensonville. Toute la journée dans cette demeure de Tensonville, un peu trop campagne, qui n'avait l'air que d'un lieu de sieste entre deux promenades ou pendant l'averse. Une de ces demeures où chaque salon a l'air d'un cabinet de verdure et où, sur la tenture des chambres, les roses du jardin dans l'une, les oiseaux des arbres dans l'autre, vous ont rejoint et vous tiennent compagnie, isolés du moins, car c'était de vieilles tentures où chaque rose était assez séparée pour qu'on eût pu, si elle avait été vivante, l'accueillir, chaque oiseau le mettre en cage et l'apprivoiser, sans rien de ces grandes décorations des chambres d'aujourd'hui, où, sur un fond d'argent, tous les pommiers de Normandie sont venus se profiler en style japonais, pour halluciner les heures que vous passez au lit. Toute la journée, je la passais dans ma chambre, qui donnait sur les belles verdures du parc et les lilas de l'entrée, sur les feuilles vertes des grands arbres au bord de l'eau, étincelant de soleil, et sur la forêt de mes églises. Je ne regardais, en somme, tout cela avec plaisir que parce que je me disais « C'est joli d'avoir tant de verdure dans la fenêtre de ma chambre », jusqu'au moment où, dans le vaste tableau verdoyant, je reconnus, peint lui au contraire en bleu sombre, simplement parce qu'il était plus loin, le clocher de l'église de Combray, non pas une figuration de ce clocher lui-même, qui, mettant ainsi sous mes yeux la distance des lieux et des années, était venu, au milieu de la lumineuse verdure et d'un tout autre ton, si sombre qu'il paraissait presque seulement dessiné, s'inscrire dans le carreau de ma fenêtre. Et si je sortais un moment de ma chambre, au bout du couloir, j'apercevais, parce qu'il était orienté autrement, comme une bande d'écarlate, la tenture d'un petit salon, qui n'était qu'une simple mousseline, mais rouge, et prête à s'incendier si un rayon de soleil y donnait. Pendant nos promenades, Gilberte me parlait de Robert comme se détournant d'elle, mais pour aller auprès d'autres femmes. Et il est vrai que beaucoup encombraient sa vie. Et comme certaines camaraderies masculines pour les hommes qui aiment les femmes, avec ce caractère de défense inutilement faite et de place vainement usurpée, qu'ont dans la plupart des maisons les objets qui ne peuvent servir à rien. Une fois que j'avais quitté Gilberte, assez tôt, je m'éveillai au milieu de la nuit dans la chambre de Tensonville, et encore à demi endormie, j'appelais « Albertine ». Ce n'était pas que j'eusse pensé à elle, ni rêvé d'elle, ni que je la prise pour Gilberte. Ma mémoire avait perdu l'amour d'Albertine, mais il semble qu'il y ait une mémoire involontaire des membres, pâle et stérile imitation de l'autre, qui vivent plus longtemps, comme certains animaux ou végétaux inintelligents vivent plus longtemps que l'homme. Les jambes, les bras sont pleins de souvenirs engourdis. Une réminiscence éclose en mon bras m'avait fait chercher derrière mon dos la sonnette, comme dans ma chambre de Paris. Et ne la trouvant pas, j'avais appelé « Albertine », croyant que mon amie défunte était couchée auprès de moi, comme elle faisait souvent le soir, et que nous nous endormions ensemble, comptant au réveil sur le temps qu'il faudrait à Françoise avant d'arriver pour qu'Albertine pût, sans imprudence, tirer la sonnette que je ne trouvais pas. Robert vint plusieurs fois à Tensonville pendant que j'y étais. Il était bien différent de ce que je l'avais connu. Sa vie ne l'avait pas épaissi, comme M. de Charlus, tout au contraire, mais, opérant en lui un changement inverse, lui avait donné l'aspect désinvolte d'un officier de cavalerie. Et bien qu'il eût donné sa démission au moment de son mariage, à un point qu'il n'avait jamais eu. Au fur et à mesure que Monsieur de Charlus était alourdi, Robert, et sans doute il était infiniment plus jeune, mais on sentait qu'il ne ferait que se rapprocher davantage de cet idéal avec l'âge. Comme certaines femmes qui sacrifient résolument leur visage à leur taille, et à partir d'un certain moment ne quittent plus Marienbad, pensant que, ne pouvant espérer garder à la fois plusieurs jeunesses, c'est encore celle de la tournure qui sera la plus capable de représenter les autres, était devenue plus élancée, plus rapide, effet contraire d'un même vice. Cette vélocité avait d'ailleurs diverses raisons psychologiques, la crainte d'être vue, le désir de ne pas sembler avoir cette crainte, la fébrilité qui naît du mécontentement de soi et de l'ennui. Il avait l'habitude d'aller dans certains mauvais lieux, et, comme il aimait qu'on ne le vît ni y entrer ni en sortir, il s'engouffrait pour offrir au regard malveillant des passants hypothétiques le moins de surface possible, comme on monte à l'assaut. Et cette allure de coup de vent lui était restée. Peut-être aussi schématisait-elle l'intrépidité apparente de quelqu'un qui veut montrer qu'il n'a pas peur et ne veut pas se donner le temps de penser. Pour être complet, il faudrait faire entrer en ligne de compte le désir, plus il vieillissait, de paraître jeune, et même l'impatience de ces hommes, toujours ennuyés et toujours blasés, que sont les gens trop intelligents pour la vie relativement oisive qu'ils mènent et où leurs facultés ne se réalisent pas. Sans doute, l'oisiveté même de cela peut se traduire par de la nonchalance. Mais, surtout depuis la faveur dont jouissent les exercices physiques, l'oisiveté a pris une forme sportive, même en dehors des heures de sport, et qui se traduit par une vivacité fébrile qui croit ne pas laisser à l'ennui le temps ni la place de se développer. Devenant beaucoup plus sec, il ne faisait presque plus preuve vis-à-vis de ses amis, par exemple vis-à-vis de moi, d'aucune sensibilité. Et en revanche, il avait avec Gilberte des affectations de sensiblerie poussées jusqu'à la comédie, qui déplaisait. Ce n'est pas qu'en réalité Gilberte lui fût indifférente. Non, Robert l'aimait. Mais il lui mentait tout le temps, et son esprit de duplicité, sinon le fond même de ses mensonges, était perpétuellement découvert. Et alors, il ne croyait pouvoir s'en tirer qu'en exagérant dans des proportions ridicules la tristesse réelle qu'il avait de peiner Gilberte. Il arrivait à Tansonville, obligé, disait-il, de repartir le lendemain matin pour une affaire avec un certain monsieur du pays qui était censé l'attendre à Paris et qui, précisément rencontré dans la soirée près de Combray, dévoilait involontairement le mensonge au courant duquel Robert avait négligé de le mettre, en disant qu'il était venu dans le pays se reposer pour un mois et ne retournerait pas à Paris d'ici là. Robert rougissait, voyait le sourire mélancolique et fin de Gilberte, se dépêtrait, en l'insultant, du gaffeur rentrait avant sa femme, lui faisait remettre un mot désespéré, où il lui disait qu'il avait fait un mensonge pour ne pas lui faire de peine, pour qu'en le voyant repartir, pour une raison qu'il ne pouvait pas lui dire, elle ne crut pas qu'il ne l'aimait pas. Et tout cela, bien qu'il l'écrivît comme un mensonge, était en somme vrai. Puis faisait demander s'il pouvait entrer chez elle, et là, moitié tristesse réelle, moitié énervement de cette vie, moitié simulation, chaque jour plus audacieuse, sanglotait, s'inondait d'eau froide, parlait de sa mort prochaine, quelquefois s'abattait sur le parquet comme s'il se fût trouvé mal. Gilberte ne savait pas dans quelle mesure elle devait le croire, le supposé menteur à chaque cas particulier, et s'inquiétait de ce pressentiment d'une mort prochaine, mais pensait que, d'une façon générale, elle était aimée, qu'il avait peut-être une maladie qu'elle ne savait pas, et n'osait pas, à cause de cela, le contrarier et lui demander de renoncer à ses voyages. Je comprenais, du reste, d'autant moins pourquoi il se faisait que Morel fût reçu comme l'enfant de la maison partout où étaient les Saint-Loup, à Paris, à Tansonville. Françoise, qui avait déjà vu tout ce que M. de Charlus avait fait pour Jupien et tout ce que Robert de Saint-Loup faisait pour Morel, n'en concluait pas que c'était un trait qui reparaissait à certaines générations chez les Guermantes, mais plutôt, comme le Grandin aidait beaucoup Théodore, elle avait fini, elle, personne si morale et si pleine de préjugés, par croire que c'était une coutume que son universalité rendait respectable. Elle disait toujours d'un jeune homme, que ce fût Morel ou Théodore, « Il a trouvé un monsieur qui s'est toujours intéressé à lui et qui lui a bien aidé. » Et comme en pareil cas les protecteurs sont ceux qui aiment, qui souffrent, qui pardonnent, Françoise, entre eux et les mineurs qu'ils détournaient, n'hésitait pas à leur donner le beau rôle, à leur trouver bien du cœur. Elle blâmait sans hésiter Théodore, qui avait joué bien des tours à Le Grandin, et semblait pourtant ne pouvoir guère avoir de doute sur la nature de leur relation, car elle ajoutait « Alors, le petit a compris qu'il fallait y mettre du sien, et y a dit « Prenez-moi avec vous, je vous aimerai bien, je vous cajolerai bien. » Et, ma foi, ce monsieur a tant de cœur que, bien sûr que Théodore est sûr de trouver près de lui peut-être bien plus qu'il ne mérite, car c'est une tête brûlée. Mais ce monsieur est si bon que j'ai souvent dit à Jeannette, la fiancée de Théodore, « Petite, si jamais vous êtes dans la peine, allez vers ce monsieur, il coucherait plutôt par terre et vous donnerait son lit. » Il a trop aimé le petit Théodore pour le mettre dehors. Bien sûr qu'il ne l'abandonnera jamais. De même, estimait-elle plus Saint-Loup que Morel, et jugeait-elle que, malgré tous les coups que Morel avait faits, le marquis ne le laisserait jamais dans la peine, car c'est un homme qui avait trop de cœur, ou alors il faudrait qu'il lui soit arrivé à lui-même de grands revers. C'est au cours d'un de ces entretiens, qu'ayant demandé le nom de famille de Théodore, qui vivait maintenant dans le Midi, je compris brusquement que c'était lui qui m'avait écrit pour mon article du Figaro cette lettre, d'une écriture populaire et d'un langage charmant, dont le nom du signataire m'était alors inconnu. Saint-Loup insistait pour que je restasse à Tansonville et laissa échapper une fois, bien qu'il ne cherchât visiblement plus à me faire plaisir, que ma venue avait été pour sa femme une joie telle qu'elle en était restée, à ce qu'elle lui avait dit, transportée de joie tout un soir où elle se sentait si triste que je l'avais, en arrivant à l'improviste, miraculeusement sauvée du désespoir. « Peut-être du pire, » ajouta-t-il. Il me demandait de tâcher de la persuader qu'il l'aimait, me disant que la femme qu'il aimait aussi, il l'aimait moins qu'elle et romprait bientôt. « Et pourtant, » ajouta-t-il, avec une telle félinité et un tel besoin de confidence, que je croyais par moments que le nom de Charlie allait, malgré Robert, sortir comme le numéro d'une loterie. J'avais de quoi être fier. Cette femme qui me donna tant de preuves de sa tendresse et que je vais sacrifier à Gilberte, jamais elle n'avait fait attention à un homme. Elle se croyait elle-même incapable d'être amoureuse. Je suis le premier. Je savais qu'elle s'était refusée à tout le monde, tellement que, quand j'ai reçu la lettre adorable où elle me disait qu'il ne pouvait y avoir de bonheur pour elle qu'avec moi, je n'en revenais pas. Évidemment, il y aurait de quoi me griser si la pensée de voir cette pauvre petite Gilberte en larmes ne m'était pas intolérable. « Ne trouves-tu pas qu'elle a quelque chose de Rachel ?» me disait-il. Et en effet, j'avais été frappée d'une vague ressemblance qu'on pouvait à la rigueur trouver maintenant entre elles. Peut-être tenait-elle à une similitude réelle de quelques traits, dû par exemple à l'origine hébraïque, pourtant si peu marquée chez Gilberte, à cause de laquelle Robert, quand sa famille avait voulu qu'il se mariât, s'était sentie attirée vers Gilberte. Elle tenait aussi à ce que Gilberte, ayant surpris des photographies de Rachel, cherchait, pour plaire à Robert, à imiter certaines habitudes chères à l'actrice, comme d'avoir toujours des nœuds rouges dans les cheveux, un ruban de velours noir au bras, et se teigner les cheveux pour paraître brune. Puis, sentant que ses chagrins lui donnaient mauvaise mine, elle essayait d'y remédier. Elle le faisait parfois sans mesure. Un jour où Robert devait venir le soir pour 24 heures à Tansonville, je fus stupéfait de la voir venir se mettre à table si étrangement différente de ce qu'elle était, non seulement autrefois, mais même les jours habituels, que je restais stupéfait comme si j'avais eu devant moi une actrice, une espèce de Théodora. Je sentais que, malgré moi, je la regardais trop fixement dans ma curiosité de savoir ce qu'elle avait de changé. Cette curiosité fut d'ailleurs bientôt satisfaite quand elle se moucha, car, malgré toutes les précautions qu'elle y mit, par toutes les couleurs qui restèrent sur le mouchoir, en faisant une riche palette, je vis qu'elle était complètement peinte. C'était cela qui lui faisait cette bouche sanglante, et qu'elle s'efforçait de rendre rieuse, en croyant que cela lui allait bien. Tandis que l'heure du train qui s'approchait, sans que Gilberte sût si son mari arrivait vraiment, ou s'il n'enverrait pas une de ses dépêches, dont M. de Guermantes avait spirituellement fixé le modèle. Impossible venir, mensonge suit. Pâlissait ses joues et cernait ses yeux. Ah, vois-tu, me disait Saint-Loup, avec un accent volontairement tendre, qui contrastait tant avec sa tendresse spontanée d'autrefois, avec une voix d'alcoolique et des modulations d'acteur. Gilberte heureuse, il n'y a rien que je ne donnerais pour cela. Elle a tant fait pour moi, tu ne peux pas savoir. Et ce qui était le plus déplaisant dans tout cela, était encore l'amour-propre, car Saint-Loup était flatté d'être aimé par Gilberte, et sans oser dire que c'était Morel qu'il aimait, donnait pourtant sur l'amour que le violoniste était censé avoir pour lui des détails qu'il savait bien exagérer, sinon inventé de toutes pièces. Lui, à qui Morel demandait chaque jour plus d'argent. Et c'était en me confiant Gilberte qu'il repartait pour Paris. J'eus, du reste, l'occasion, pour anticiper un peu, puisque je suis encore à Tansonville, de l'y apercevoir une fois dans le monde, et de loin, où sa parole, malgré toute vivante et charmante, me permettait de retrouver le passé. Je fus frappé de voir combien il changeait. Il ressemblait de plus en plus à sa mère. Mais la manière de sveltesse hautaine qu'il avait héritée d'elle et qu'elle avait parfaite, chez lui, grâce à l'éducation la plus accomplie, s'exagérait, se figeait. La pénétration du regard, propre aux Guermantes, lui donnait l'air d'inspecter tous les lieux au milieu desquels il passait, mais d'une façon quasi inconsciente, par une sorte d'habitude et de particularité animale. Même immobile, la couleur qui était la sienne, plus que de tous les Guermantes, d'être seulement de l'ensoleillement d'une journée d'or devenue solide, lui donnait comme un plumage si étrange, faisait de lui une espèce si rare, si précieuse, qu'on aurait voulu la posséder pour une collection ornithologique. Mais quand, de plus, cette lumière changée en oiseau se mettait en mouvement, en action, quand par exemple je voyais Robert de Saint-Loup entrer dans une soirée où j'étais, il avait des redressements de sa tête si joyeusement et si fièrement huppés sous l'aigrette d'or de ses cheveux un peu déplumés, des mouvements de cou tellement plus souples, plus fiers et plus coquets que n'en ont les humains, que devant la curiosité et l'admiration moitié mondaine, moitié zoologique qu'il vous inspirait, on se demandait si c'était dans le faubourg Saint-Germain qu'on se trouvait ou au jardin des plantes, et si on regardait un grand seigneur traverser un salon ou se promener dans sa cage un merveilleux oiseau. Pour peu qu'on imite un peu d'imagination, le ramage ne se prêtait pas moins à cette interprétation que le plumage. Il disait ce qu'il croyait grand siècle, et par là, imitait les manières des guermantes. Mais un rien d'indéfinissable faisait qu'elles devenaient les manières de monsieur de Charlus. « Je te quitte un instant, » me dit-il, dans cette soirée où madame de Marsante était un peu plus loin. « Je vais faire un doigt de cour à ma nièce. » Quant à cet amour dont il me parlait sans cesse, il n'était pas d'ailleurs que celui pour Charlie, bien que ce fût le seul qui comptât pour lui. Quel que soit le genre d'amour d'un homme, on se trompe toujours sur le nombre des personnes avec qui il a des liaisons, parce qu'on interprète faussement des amitiés comme des liaisons, ce qui est une erreur par addition, mais aussi parce qu'on croit qu'une liaison prouvée en exclut une autre, ce qui est un autre genre d'erreur. Deux personnes peuvent dire « La maîtresse de X, je la connais », prononcer deux noms différents et ne se tromper ni l'une ni l'autre. Une femme qu'on aime suffit rarement à tous nos besoins, et on la trompe avec une femme qu'on n'aime pas. Quant au genre d'amour que Saint-Loup avait hérité de monsieur de Charlus, un mari qui est enclin fait habituellement le bonheur de sa femme. C'est une loi générale à laquelle les guermantes trouvaient le moyen de faire exception, parce que ceux qui avaient ce goût voulaient faire croire qu'ils avaient, au contraire, celui des femmes. Ils s'affichaient avec l'une ou l'autre et désespéraient la leur. Les Courvoisier en usaient plus largement. Le jeune vicomte de Courvoisier se croyait seul sur la terre, et depuis l'origine du monde, à être tenté par quelqu'un de son sexe. Supposant que ce penchant lui venait du diable, il lutta contre lui, épousa une femme ravissante, lui fit des enfants. Puis un de ses cousins lui enseigna que ce penchant est assez répandu, poussa la bonté jusqu'à le mener dans des lieux où il pouvait le satisfaire. Monsieur de Courvoisier n'en aima que plus sa femme, redoubla de zèle prolifique, et elle et lui étaient cités comme le meilleur ménage de Paris. On n'en disait point autant de celui de Saint-Loup, parce que Robert, au lieu de se contenter de l'inversion, faisait mourir sa femme de jalousie en cherchant sans plaisir des maîtresses. Il est possible que Morel, étant excessivement noir, fût nécessaire à Saint-Loup, comme l'ombre l'est au rayon de soleil. On imagine très bien dans cette famille si ancienne un grand seigneur blond, doré, intelligent, doué de tous les prestiges et recelant à fond de cale un goût secret, ignoré de tous, pour les nègres. Robert, d'ailleurs, ne laissait jamais la conversation toucher à ce genre d'amour qui était le sien. Si je disais un mot, « Oh, je ne sais pas », répondait-il avec un détachement si profond qu'il en laissait tomber son monocle. « Je n'ai pas soupçon de ces choses-là. Si tu désires des renseignements là-dessus, mon cher, je te conseille de t'adresser ailleurs. Moi, je suis un soldat, un point c'est tout. Autant ces choses-là m'indiffèrent, autant je suis avec passion la guerre balkanique. Autrefois cela t'intéressait, l'histoire des batailles. Je te disais alors qu'on reverrait, même dans les conditions les plus différentes, les batailles typiques, par exemple le grand essai d'enveloppement par l'aile de la bataille d'Ulm. Eh bien, si spéciales que soient ces guerres balkaniques, l'Uleburga, c'est encore Ulm, l'enveloppement par l'aile. Voilà les sujets dont tu peux me parler. Mais pour le genre de choses auxquelles tu fais allusion, je m'y connais autant qu'en sanskrit. » Ces sujets que Robert dédaignait ainsi, Gilberte, au contraire, quand il était reparti, les abordait volontiers en causant avec moi. Non, certes, relativement à son mari, car elle ignorait, ou feignait d'ignorer tout. Mais elle s'étendait volontiers sur eux en tant qu'ils concernaient les autres, soit qu'elle y vit une sorte d'excuse indirecte pour Robert, soit que celui-ci, partagé comme son oncle entre un silence sévère à l'égard de ses sujets et un besoin de s'épancher et de médire, l'eût instruite pour beaucoup. Entre tous, M. de Charlus n'était pas épargné. C'était sans doute que Robert, sans parler de Morel à Gilberte, ne pouvait s'empêcher, avec elle, de lui répéter, sous une forme ou sous une autre, ce que le violoniste lui avait appris. Et il poursuivait son ancien bienfaiteur de sa haine. Ces conversations, que Gilberte affectionnait, me permirent de lui demander si, dans un genre parallèle, Albertine, dont c'est par elle que j'avais entendu la première fois le nom, quand jadis elles étaient amies de cour, avait de ses goûts. Gilberte refusa de me donner ce renseignement. Au reste, il y avait longtemps qu'il eût cessé d'offrir quelque intérêt pour moi, mais je continuais à m'en enquérir machinalement, comme un vieillard qui, ayant perdu la mémoire, demande de temps à autre des nouvelles du fils qu'il a perdu. Un autre jour, je revins à la charge et demandai encore à Gilberte si Albertine aimait les femmes. « Oh, pas du tout !»« Mais vous disiez autrefois qu'elle avait mauvais genre. »« J'ai dit cela, moi ? Vous devez vous tromper. En tout cas, si je l'ai dit... »« Mais vous faites erreur. Je parlais au contraire d'amourette avec des jeunes gens. » »« À cet âge-là, du reste, cela n'allait probablement pas bien loin. » Gilberte disait-elle cela pour me cacher qu'elle-même, selon ce qu'Albertine m'avait dit, aimait les femmes et avait fait à Albertine des propositions. Ou bien, car les autres sont souvent plus renseignés sur notre vie que nous ne croyons, savait-elle que j'avais aimé, que j'avais été jaloux d'Albertine? Et les autres pouvant savoir plus de vérité que nous ne croyons, mais l'étendre aussi trop loin et être dans l'erreur par des suppositions excessives, alors que nous les avions espérées dans l'erreur par l'absence de toute supposition. S'imaginait-elle que je l'étais encore, et me mettait-elle sur les yeux, par bonté, ce bandeau qu'on a toujours tout prêt pour les jaloux? En tout cas, les paroles de Gilberte, depuis le mauvais genre, d'autrefois, jusqu'au certificat de bonne vie et mœurs d'aujourd'hui, suivait une marche inverse des affirmations d'Albertine, qui avait fini presque par avouer des demi-rapports avec Gilberte. Albertine m'avait étonnée en cela, comme sur ce que m'avait dit André, car pour toute cette petite bande, si j'avais d'abord cru, avant de la connaître, à sa perversité, je m'étais rendu compte de mes fausses suppositions. Comme il arrive si souvent, quand on trouve une honnête fille, et presque ignorante des réalités de l'amour, dans le milieu qu'on avait cru, à tort, le plus dépravé. Puis j'avais refait le chemin en sens contraire, reprenant pour vrai mes suppositions du début. Mais peut-être Albertine avait-elle voulu me dire cela pour avoir l'air plus expérimentée qu'elle n'était, et pour m'éblouir, à Paris, du prestige de sa perversité, comme la première fois à Balbec par celui de sa vertu. Et tout simplement, quand je lui avais parlé des femmes qui aimaient les femmes, pour ne pas avoir l'air de ne pas savoir ce que c'était, comme dans une conversation on prend un air entendu si on parle de Fourier ou de Tobolsk, encore qu'on ne sache pas ce que c'est. Elle avait peut-être vécu près de l'amie de Mademoiselle Vinteuil et d'André, séparée par une cloison étanche d'elle, qui croyait qu'elle n'en était pas, ne s'était renseignée ensuite, comme une femme qui épouse un homme de lettres cherche à se cultiver, qu'afin de me complaire en se faisant capable de répondre à mes questions, jusqu'au jour où elle avait compris qu'elles étaient inspirées par la jalousie et où elle avait fait machine en arrière, à moins que ce ne fût Gilberte qui me mentît. L'idée me vint que c'était pour avoir appris d'elle, au cours d'un flirt qui l'aurait conduit dans le sens qui l'intéressait, qu'elle ne détestait pas les femmes, que Robert l'avait épousée, espérant des plaisirs qu'il n'avait pas dû trouver chez lui puisqu'il les prenait ailleurs. Aucune de ces hypothèses n'était absurde, car chez des femmes comme la fille d'Odette, où les jeunes filles de la petite bande, il y a une telle diversité, un tel cumul de goûts alternants, si même ils ne sont pas simultanés, qu'elles passent aisément d'une liaison avec une femme à un grand amour pour un homme, si bien que définir le goût réel et dominant reste difficile. C'est ainsi qu'Albertine avait cherché à me plaire pour me décider à l'épouser, mais elle y avait renoncé elle-même à cause de mon caractère indécis et tracassier. C'était, en effet, sous cette forme trop simple que je jugeais mon aventure avec Albertine, maintenant que je ne voyais plus cette aventure que du dehors. Ce qui est curieux, et ce sur quoi je ne puis m'étendre, c'est à quel point, vers cette époque-là, toutes les personnes qu'avait aimé Albertine, toutes celles qui auraient pu lui faire faire ce qu'elles auraient voulu, demandèrent, implorèrent, j'oserais dire mendièrent, à défaut de mon amitié, quelques relations avec moi. Et il n'y aurait plus eu besoin d'offrir de l'argent à Madame Bontemps pour qu'elle me renvoyât Albertine. Ce retour de la vie, se produisant quand il ne servait plus à rien, m'attristait profondément, non à cause d'Albertine, que j'eusse reçue sans plaisir si elle m'eût été ramenée, non plus de Touraine, mais de l'autre monde, mais à cause d'une jeune femme que j'aimais et que je ne pouvais arriver à voir. Je me disais que si elle mourait, ou si je ne l'aimais plus, tous ceux qui eussent pu me rapprocher d'elle tomberaient à mes pieds. En attendant, j'essayais en vain d'agir sur eux, n'étant pas guéri par l'expérience qui aurait dû m'apprendre, si elle apprenait jamais rien, qu'aimer est un mauvais sort, comme ceux qu'il y a dans les contes, contre quoi on ne peut rien jusqu'à ce que l'enchantement ait cessé. « Justement, reprit Gilberte, le livre que je tiens parle de ces choses. C'est un vieux Balzac que je pioche pour me mettre à la hauteur de mes oncles. La fille aux yeux d'or. Mais c'est absurde, invraisemblable, un beau cauchemar. D'ailleurs, une femme peut, peut-être, être surveillée ainsi par une autre femme, jamais par un homme. Vous vous trompez. J'ai connu une femme qu'un homme qui l'aimait était arrivé véritablement à séquestrer. Elle ne pouvait jamais voir personne et sortait seulement avec des serviteurs dévoués. Eh bien, cela devrait vous faire horreur à vous qui êtes si bon. Justement, nous disions avec Robert que vous devriez vous marier. Votre femme vous guérirait et vous feriez son bonheur. Non, parce que j'ai trop mauvais caractère. Quelle idée ! Je vous assure, j'ai du reste été fiancée, mais je n'ai pas pu. Je ne voulus pas emprunter à Gilberte la fille aux yeux d'or, puisqu'elle le lisait. Mais elle me prêta, le dernier soir que je passais chez elle, un livre qui me produisit une impression assez vive et mêlée. C'était un volume du journal inédit des Goncourt. J'étais triste, ce dernier soir, en remontant dans ma chambre, de penser que je n'avais pas été une seule fois revoir l'église de Combray, qui semblait m'attendre au milieu des verdures dans une fenêtre toute violacée. Je me disais, tant pis, ce sera pour une autre année si je ne meurs pas d'ici là. Ne voyant pas d'autre obstacle que ma mort, et n'imaginant pas celle de l'église qui me semblait devoir durer longtemps après ma mort, comme elle avait duré longtemps avant ma naissance. Quand, avant d'éteindre ma bougie, je lus le passage que je transcris plus bas, mon absence de disposition pour les lettres, pressentie jadis du côté de Guermantes, confirmée durant ce séjour dont c'était le dernier soir, ce soir d'éveil de départ, où l'engourdissement des habitudes qui vont finir cessant, on essaie de se juger, me parut quelque chose de moins regrettable, comme si la littérature ne révélait pas de vérité profonde, et en même temps, il me semblait triste que la littérature ne fût pas ce que j'avais cru. D'autre part, moins regrettable me semblait l'état maladif qui allait me confiner dans une maison de santé, si les belles choses dont parlent les livres n'étaient pas plus belles que ce que j'avais vu. Mais, par une contradiction bizarre, maintenant que ce livre en parlait, j'avais envie de les voir. Voici les pages que je lus jusqu'à ce que la fatigue me ferma les yeux. Avant-hier, tombe ici, pour m'emmener dîner chez lui, Verdurin, l'ancien critique de la revue, l'auteur de ce livre sur Whistler, où vraiment le fer, le coloriage artiste de l'original américain, est souvent rendu avec une grande délicatesse par l'amoureux de tous les raffinements, de toutes les joliesses de la chose peinte qu'est Verdurin. Et tandis que je m'habille pour le suivre, c'est de sa part tout un récit, où il y a par moments comme l'épellement apeuré d'une confession sur le renoncement à écrire, aussitôt après son mariage avec la Madeleine de Fromentin. Renoncement qui serait dû à l'habitude de la morphine et aurait eu cet effet, au dire de Verdurin, que la plupart des habitués du salon de sa femme, ne sachant même pas que le mari eût jamais écrit, lui parlaient de Charles Blanc, de Saint-Victor, de Sainte-Beuve, de Burti, comme d'individus auxquels il le croyait, lui, tout à fait inférieur. Voyons, vous, Goncourt, vous savez bien, et Gautier le savait aussi, que mes salons étaient autre chose que ces piteux maîtres d'autrefois, crus un chef-d'œuvre dans la famille de ma femme. Puis, par un crépuscule où il y a près des tours du Trocadéro, comme le dernier allumement d'une lueur qui en fait des tours absolument pareilles aux tours enduites de gelée de groseille des anciens pâtissiers, la causerie continue dans la voiture qui doit nous conduire quai Conti, où est leur hôtel que son possesseur prétend être l'ancien hôtel des ambassadeurs de Venise, et où il y aurait un fumoir dont Verdurin me parle comme d'une salle transportée telle quelle, à la façon des mille et une nuits, d'un célèbre palazzo, dont j'oublie le nom. Palazzo à la margelle du puits représentant un couronnement de la Vierge que Verdurin soutient être absolument du plus beau Sansovino et qui servirait, pour leurs invités, à jeter la cendre de leurs cigares. Et, ma foi, quand nous arrivons, dans le glauque et le diffus d'un clair de lune vraiment semblable à ceux dont la peinture classique abrite Venise, et sur lequel la coupole silhouettée de l'Institut fait penser à la Salute dans les tableaux de Guardi, j'ai un peu l'illusion d'être au bord du Grand Canal. L'illusion est entretenue par la construction de l'hôtel où, du premier étage, on ne voit pas le quai, et par le dire évocateur du maître de maison, affirmant que le nom de la rue du Bac, du diable si j'y avais jamais pensé, viendrait du bac sur lequel les religieuses d'autrefois, les Miramiones, se rendaient aux offices de Notre-Dame. Tout un quartier où a flâné mon enfance, quand ma tante de Courmont l'habitait, et que je me prends à rêmer en retrouvant, presque contigu à l'hôtel des Verdurins, l'enseigne du Petit Dunkerque, une des rares boutiques survivant ailleurs que vignettées dans le crayonnage et les frottis de Gabriel de Saint-Aubin, où le XVIIIe siècle curieux venait asseoir ses moments d'oisiveté pour le marchandage des jolités françaises et étrangères. Et tout ce que les arts produisent de plus nouveau, comme dit une facture de ce Petit Dunkerque, facture dont nous sommes seuls, je crois, Verdurin et moi, à posséder une épreuve, et qui est bien un des volants chefs-d'œuvre de papier ornementé sur lequel le règne de Louis XV faisait ses comptes, avec son en-tête représentant une mer toute vagueuse, chargée de vaisseaux, une mer aux vagues ayant l'air d'une illustration de l'édition des fermiers généraux de l'huître et des plaideurs. La maîtresse de la maison, qui va me placer à côté d'elle, me dit aimablement avoir fleuri sa table rien qu'avec des chrysanthèmes japonais, mais des chrysanthèmes disposés en des vases qui seraient de rarissimes chefs-d'œuvre, l'un entre autres fait de bronze, sur lequel des pétales en cuivre rougeâtre sembleraient être la vivante effeuillaison de la fleur. Il y a là Cottard, le docteur et sa femme, le sculpteur polonais Viradobetsky, Swann, le collectionneur, une grande dame russe, une princesse au nom en or qui m'échappe, et Cottard me souffle à l'oreille que c'est elle qui aurait tiré à bout portant sur l'archiduc Rodolphe, et d'après qui j'aurais en Galicie et dans tout le nord de la Pologne une situation absolument exceptionnelle. Une jeune fille ne consentant jamais à promettre sa main sans savoir si son fiancé est un admirateur de la Faustin. Vous ne pouvez pas comprendre cela, vous autres occidentaux. Jette en manière de conclusion la princesse, qui me fait l'effet, ma foi, d'une intelligence tout à fait supérieure. Cette pénétration par un écrivain de l'intimité de la femme. Un homme au menton et aux lèvres rasées, au favori de maître d'hôtel, débitant sur un ton de condescendance des plaisanteries de professeur de seconde qui fraye avec les premiers de sa classe pour la Saint-Charlemagne, et ses brichots, l'universitaire. À mon nom, prononcé par Verdurin, il n'a pas une parole qui marque qu'il connaisse nos livres, et c'est en moi un découragement colère, éveillé par cette conspiration qu'organise contre nous la Sorbonne, apportant jusque dans l'aimable logis où je suis fêtée la contradiction, l'hostilité d'un silence voulu. Nous passons à table, et c'est alors un extraordinaire défilé d'assiettes qui sont tout bonnement des chefs-d'œuvre de l'art du porcelainier, celui dont, pendant un repas délicat, l'attention chatouillée d'un amateur écoute le plus complaisamment le bavardage artiste. Des assiettes de Yongqing à la couleur capucine de leurs rebords, au bleuâtre, à l'effeuillet turgide de leurs iris d'eau, à la traversée, vraiment décoratoire, par l'aurore d'un vol de martins-pêcheurs et de grues, aurore ayant tout à fait ses tons matutinaux qu'entre-regarde quotidiennement, boulevard Montmorency, mon réveil. Des assiettes de Saxe, plus mièvres dans le gracieux de leur fer, à l'endormement, à l'anémie de leurs roses tournées au violet, au déchiquetage lie-devin d'une tulipe, au rococo d'un œillet ou d'un myosotis. Des assiettes de Sèvres, engrillagées par le fin guilloschi de leur cannelure blanche, verticillées d'or, ou que noue, sur l'aplat crémeux de la pâte, le galant relief d'un ruban d'or. Enfin, toute une argenterie où courent ces myrtes de Lucienne que reconnaîtrait la Dubarry. Et ce qui est peut-être aussi rare, c'est la qualité vraiment tout à fait remarquable des choses qui sont servies là-dedans. Un manger est finement mijoté, tout un fricoté comme les Parisiens, il faut le dire bien haut, n'en ont jamais dans les plus grands dîners, et qui me rappelle certains cordons bleus de Jean d'Heure. Même le foie gras n'a aucun rapport avec la fade mousse qu'on sert habituellement sous ce nom. Et je ne sais pas beaucoup d'endroits où la simple salade de pommes de terre est faite ainsi de pommes de terre ayant la fermeté de boutons d'ivoire japonais, le patiné de ces petites cuillères d'ivoire avec lesquelles les Chinoises versent l'eau sur le poisson qu'elles viennent de pêcher. Dans le verre de Venise que j'ai devant moi, une riche bijouterie de rouge émise par un extraordinaire Léoville acheté à la vente de M. Montalivet. Et c'est un amusement pour l'imagination de l'œil, et aussi, je ne crains pas de le dire, pour l'imagination de ce qu'on appelait autrefois la gueule. De voir apporter une barbue, qui n'a rien des barbues pas fraîches qu'on sert sur les tables les plus luxueuses, et qui ont pris dans les retards du voyage le modelage sur leur dos de leurs arêtes. Une barbue qu'on sert non avec la colle à pâte que préparent, sous le nom de sauce blanche, tant de chefs de grande maison, mais avec de la véritable sauce blanche faite avec du beurre à 5 francs la livre. devoir apporter cette barbue dans un merveilleux plat Ching-Hong, traversé par les pourpres rayages d'un coucher de soleil sur une mer où passe la navigation drôlatique d'une bande de langoustes, au pointillis grumeleux si extraordinairement rendu qu'elles semblent avoir été moulées sur des carapaces vivantes, plat dont le marli est fait de la pêche à la ligne par un petit chinois, d'un poisson qui est un enchantement de nacreuses couleurs par l'argentement azuré de son ventre. Comme je dis à Verdurin, le délicat plaisir que ce doit être pour lui que cette raffinée mangeaille dans cette collection comme aucun prince n'en possède à l'heure actuelle derrière ses vitrines. On voit bien que vous ne le connaissez pas, me jette mélancoliquement la maîtresse de maison, et elle me parle de son mari comme d'un original maniaque, indifférent à toutes ses jolités. Un maniaque, répète-t-elle. Oui, absolument cela, un maniaque, qui aurait plutôt l'appétit d'une bouteille de cidre, bu dans la fraîcheur un peu encanaillée d'une ferme normande. Et la charmante femme, à la parole vraiment amoureuse des colorations d'une contrée, nous parle avec un enthousiasme débordant de cette Normandie qu'ils ont habitée, une Normandie qui serait un immense parc anglais, à la fragrance de ses hautes futaies à la Lawrence, au velours cryptoméria, dans leur bordure porcelainée d'hortensia rose, de ses pelouses naturelles, au chiffonnage de roses soufre dont la retombée sur une porte de paysan, où l'incrustation de deux poiriers enlacés simule une enseigne tout à fait ornementale, fait penser à la libre retombée d'une branche fleurie dans le bronze d'une applique de gouttière. Une Normandie qui serait absolument insoupçonnée des Parisiens en vacances et que protège la barrière de chacun de ses clos, barrière que les Verdurins me confessent ne pas s'être fait, faute de lever toute. À la fin du jour, dans un éteignement sommeilleux de toutes les couleurs, où la lumière ne serait plus donnée que par une mer presque caillée, ayant le bleuâtre du petit lait, mais non, rien de la mer que vous connaissez, proteste ma voisine frénétiquement, en réponse à mon dire que Flaubert nous avait menés, mon frère et moi, à Trouville. Rien, absolument rien. Il faudra venir avec moi. Sans cela, vous ne saurez jamais. Il rentrait, à travers les vraies forêts en fleurs de tulle rose que faisaient les rhododendrons, tout à fait grisés par l'odeur des jardineries qui donnaient au mari d'abominables crises d'asthme. Oui, insista-t-elle. C'est cela, de vraies crises d'asthme. Là-dessus, l'été suivant, il revenait, logeant toute une colonie d'artistes dans une admirable habitation moyenâgeuse que leur faisait un cloître ancien loué par eux, pour rien. Et, ma foi, en entendant cette femme qui, en passant par tant de milieux vraiment distingués, a gardé pourtant dans sa parole un peu de la verdeur de la parole d'une femme du peuple, une parole qui vous montre les choses avec la couleur que votre imagination y voit. L'eau me vient à la bouche de la vie qu'elle me confesse avoir menée là-bas, chacun travaillant dans sa cellule, et où, dans le salon, si vaste qu'il possédait deux cheminées, tout le monde venait avant le déjeuner pour des causeries tout à fait supérieures, mêlées de petits jeux, me refaisant penser à celle qu'évoque ce chef-d'œuvre de Diderot, les lettres à Mademoiselle Volant. Puis, après le déjeuner, tout le monde sortait, même les jours de grain, dans le coup de soleil. Le rayonnement du Nondé, lignant de son filtrage lumineux, les nodosités d'un magnifique départ de hêtre centenaire, qui mettait devant la grille le beau végétal affectionné par le XVIIIe siècle, et d'arbustes, ayant pour boutons fleurissants dans la suspension de leurs rameaux des gouttes de pluie. On s'arrêtait pour écouter le délicat barboti, enamouré de fraîcheur, d'un bouvreuil se baignant dans la mignonne baignoire minuscule de Nymphbourg, qu'est la corolle d'une rose blanche. Et comme je parle à Madame Verdurin des paysages et des fleurs de là-bas, délicatement pastellisées par Elstir, « Mais c'est moi qui lui ai fait connaître tout cela » jette-t-elle avec un redressement colère de la tête. « Tout, vous entendez bien, tout, les coins curieux, tous les motifs, je le lui ai jeté à la face quand il nous a quittés, n'est-ce pas, Auguste ? Tous les motifs qu'il a peints. Les objets, il les a toujours connus, cela il faut être juste, il faut le reconnaître. Mais les fleurs, il n'en avait jamais vu, il ne savait pas distinguer un altéa d'une passerose. C'est moi qui lui ai appris à reconnaître, vous n'allez pas me croire, à reconnaître le jasmin. » Et il faut avouer qu'il y a quelque chose de curieux à penser que le peintre des fleurs, que les amateurs d'art nous citent aujourd'hui comme le premier, comme supérieur même à Fantin-Latour, n'aurait peut-être jamais, sans la femme qui est là, su peindre un jasmin. Oui, ma parole, le jasmin, toutes les roses qu'il a faites, c'est chez moi, ou bien c'est moi qui les lui apportais. On ne l'appelait chez nous que Monsieur Tiche. Demandez à Cottard, à Brichot, à tous les autres, si on le traitait ici en grand homme. Lui-même en aurait ri. Je lui apprenais à disposer ses fleurs. Au commencement, il ne pouvait pas en venir à bout. Il n'a jamais su faire un bouquet. Il n'avait pas de goût naturel pour choisir. Il fallait que je lui dise « Non, ne peignez pas cela, cela n'en vaut pas la peine. Peignez ceci. » Ah, s'il nous avait écoutés aussi pour l'arrangement de sa vie comme pour l'arrangement de ses fleurs, et s'il n'avait pas fait ce sale mariage !» Et brusquement, les yeux enfiévrés par l'absorption d'une rêverie tournée vers le passé, avec le nerveux taquinage, dans l'allongement maniaque de ses phalanges, du floche des manches de son corsage, c'est, dans le contournement de sa pose endolorie, comme un admirable tableau qui n'a, je crois, jamais été peint, et où se lirait toute la révolte contenue, toutes les susceptibilités rageuses d'une amie outragée dans les délicatesses, dans la pudeur de la femme. Là-dessus, elle nous parle de l'admirable portrait qu'Elstir a fait pour elle, le portrait de la famille Collard, portrait donné par elle au Luxembourg au moment de sa brouille avec le peintre, confessant que c'est elle qui a donné au peintre l'idée de faire l'homme en habit pour obtenir tout ce beau bouillonnement du linge, et qui a choisi la robe de velours de la femme, robe faisant un appui au milieu de tout le papillotage des nuances claires des tapis, des fleurs, des fruits, des robes de gaze des fillettes, pareilles à des tutus de danseuses. Ce serait elle aussi qui aurait donné l'idée de ce coiffage, idée dont on a fait ensuite honneur à l'artiste, idée qui consistait, en somme, à peindre la femme, non pas en représentation, mais surprise dans l'intime de sa vie de tous les jours. Je lui disais, mais dans la femme qui se coiffe, qui s'essuie la figure, qui se chauffe les pieds, quand elle ne croit pas être vue, il y a un tas de mouvements intéressants, des mouvements d'une grâce tout à fait léonardesque. Mais sur un signe de Verdurin indiquant le réveil de ses indignations comme malsain pour la grande nerveuse que serait au fond sa femme, Swann me fait admirer le collier de perles noires porté par la maîtresse de la maison et acheté par elle, toute blanche, à la vente d'un descendant de Madame de Lafayette à qui elles auraient été données par Henriette d'Angleterre. Perles devenues noires à la suite d'un incendie qui détruisit une partie de la maison que les Verdurin habitaient, dans une rue dont je ne me rappelle plus le nom. Incendie après lequel fut retrouvé le coffret où étaient ces perles, mais devenues entièrement noires. Et je connais le portrait de ces perles, aux épaules même de Madame de Lafayette. Oui, parfaitement, leur portrait, insista Swann devant les exclamations des convives un brin ébahi. Leur portrait authentique dans la collection du duc de Guermantes. Une collection qui n'a pas son égal au monde, proclame-t-il, et que je devrais aller voir. Une collection héritée par le célèbre duc, qui était son neveu préféré, de Madame de Beausergent sa tante, de Madame de Beausergent depuis Madame d'Eyfeld, la sœur de la marquise de Villeparisis et de la princesse de Hanovre. Mon frère et moi, nous l'avons tant aimé autrefois sous les traits du charmant bambin appelé Bazin, qui est bien en effet le prénom du duc. Là-dessus, le docteur Cottard, avec une finesse qui décèle chez lui l'homme tout à fait distingué, ressaute à l'histoire des perles et nous apprend que des catastrophes de ce genre produisent dans le cerveau des gens des altérations tout à fait pareilles à celles qu'on remarque dans la matière inanimée, et cite, d'une façon vraiment plus philosophique que ne feraient bien des médecins, le propre valet de chambre de Madame Verdurin, qui, dans l'épouvante de cet incendie où il avait failli périr, était devenu un autre homme, ayant une écriture tellement changée qu'à la première lettre que ses maîtres, alors en Normandie, reçurent de lui, leur annonçant l'événement, ils crurent à la mystification d'un farceur. Et pas seulement une autre écriture, selon Cottard, qui prétend que de sobre, cet homme était devenu si abominablement pochard que Madame Verdurin avait été obligée de le renvoyer. Et la suggestive dissertation passa, sur un signe gracieux de la maîtresse de maison, de la salle à manger au fumoir vénitien, dans lequel Cottard me dit avoir assisté à de véritables dédoublements de la personnalité, nous citant le cas d'un de ses malades, qu'il s'offre aimablement à m'amener chez moi, et à qui il suffisait qu'il touchât les tempes pour l'éveiller à une seconde vie, vie pendant laquelle il ne se rappelait rien de la première, si bien que, très honnête homme dans celle-là, il y aurait été plusieurs fois arrêté pour des vols commis dans l'autre, où il serait tout simplement un abominable gredin. Sur quoi, Madame Verdurin remarque finement que la médecine pourrait fournir des sujets plus vrais à un théâtre où la cocasserie de l'imbroglio reposerait sur des méprises pathologiques, ce qui, de fil en aiguille, amène Madame Cottard à narrer qu'une donnée toute semblable a été mise en œuvre par un amateur qui est le favori des soirées de ses enfants, l'Écossais Stevenson, un nom qui met dans la bouche de Swann cette affirmation péremptoire. « Mais c'est tout à fait un grand écrivain, Stevenson. Je vous assure, monsieur de Goncourt, un très grand, l'égal des plus grands. » Et comme sur mon émerveillement des plafonds à caissons écussonnés provenant de l'ancien Palazzo Barberini, de la salle où nous fumons, je laisse percer mon regret du noircissement progressif d'une certaine vasque par la cendre de nos Londres. Swann, ayant raconté que des taches pareilles attestent sur les livres ayant appartenu à Napoléon Ier, livres possédés, malgré ses opinions anti-bonapartistes, par le duc de Guermantes, que l'empereur chiquait. Cottard, qui se révèle un curieux vraiment pénétrant en toutes choses, déclare que ces taches ne viennent pas du tout de cela. « Mais là, pas du tout !» insiste-t-il avec autorité. Mais de l'habitude qu'il avait d'avoir toujours dans la main, même sur les champs de bataille, des pastilles de réglisse pour calmer ses douleurs de foie. Car il avait une maladie de foie, et c'est de cela qu'il est mort, conclut le docteur. Je m'arrêtai là, car je partais le lendemain, et d'ailleurs, c'était l'heure où me réclamait l'autre maître, au service de qui nous sommes chaque jour pour une moitié de notre temps. La tâche à laquelle il nous astreint, nous l'accomplissons les yeux fermés. Tous les matins, il nous rend à notre autre maître, sachant que sans cela, nous nous livrerions mal à la sienne. Curieux, quand notre esprit a rouvert ses yeux, de savoir ce que nous avons bien pu faire chez le maître qui étend ses esclaves avant de les mettre à une besogne précipitée. Les plus malins, à peine la tâche finie, tâchent de subrepticement regarder. Mais le sommeil lutte avec eux de vitesse pour faire disparaître les traces de ce qu'ils voudraient voir. Et depuis tant de siècles, nous ne savons pas grand-chose là-dessus. Je fermai donc le journal des Goncourt. Prestige de la littérature. J'aurais voulu revoir les Cottard, leur demander tant de détails sur Elstir, aller voir la boutique du petit Dunkerque, si elle existait encore, demander la permission de visiter cet hôtel des Verdurins où j'avais dîné. Mais j'éprouvais un vague trouble. Certes, je ne m'étais jamais dissimulé que je ne savais pas écouter, ni, dès que je n'étais plus seule, regarder. Une vieille femme ne montrait à mes yeux aucune espèce de collier de perles, et ce qu'on en disait n'entrait pas dans mes oreilles. Tout de même, ces êtres-là, je les avais connus dans la vie quotidienne. J'avais souvent dîné avec eux. C'étaient les Verdurins, c'était le duc de Guermantes, c'était les Cottard. Chacun d'eux m'avait paru aussi commun qu'à ma grand-mère ce Bazin, dont elle ne se doutait guère qu'il était le neveu chéri, le jeune héros délicieux de madame de Beausergent. Chacun d'eux m'avait semblé insipide. Je me rappelais les vulgarités sans nombre dont chacun était composé. Et que tout cela fit un astre dans la nuit. Je résolus de laisser provisoirement de côté les objections qu'avaient pu faire naître en moi, contre la littérature, ces pages des Goncourt. Même en mettant de côté l'indice individuel de naïveté qui est frappant chez le mémorialiste, je pouvais d'ailleurs me rassurer à divers points de vue. D'abord, en ce qui me concernait personnellement, mon incapacité de regarder et d'écouter, que le journal cité avait si péniblement illustré pour moi, n'était pourtant pas totale. Il y avait en moi un personnage qui savait plus ou moins bien regarder, mais c'était un personnage intermittent, ne reprenant vie que quand se manifestait quelque essence générale, commune à plusieurs choses, qui faisait sa nourriture et sa joie. Alors le personnage regardait et écoutait, mais à une certaine profondeur seulement, de sorte que l'observation n'en profitait pas. Comme un géomètre qui, dépouillant les choses de leurs qualités sensibles, ne voit que leur substratum linéaire, ce que racontaient les gens m'échappait, car ce qui m'intéressait, c'était non ce qu'ils voulaient dire, mais la manière dont ils le disaient, en tant qu'elle était révélatrice de leur caractère ou de leur ridicule. Ou plutôt, c'était un objet qui avait toujours été plus particulièrement le but de ma recherche, parce qu'il me donnait un plaisir spécifique, le point qui était commun à un être et à un autre. Ce n'était que quand je l'apercevais que mon esprit, jusque-là sommeillant, même derrière l'activité apparente de ma conversation, dont l'animation masquait pour les autres un total engourdissement spirituel, se mettait tout à coup joyeusement en chasse. Mais ce qu'il poursuivait alors, par exemple l'identité du salon Verdurin dans divers lieux et divers temps, était situé à mi-profondeur, au-delà de l'apparence elle-même, dans une zone un peu plus en retrait. Aussi, le charme apparent, copiable, des êtres m'échappait parce que je n'avais plus la faculté de m'arrêter à lui, comme le chirurgien qui, sous le poli d'un ventre de femme, verrait le mal interne qui le ronge. J'avais beau dîner en ville, je ne voyais pas les convives, parce que, quand je croyais les regarder, je les radiographiais. Il en résultait qu'en réunissant toutes les remarques que j'avais pu faire dans un dîner sur les convives, le dessin des lignes tracées par moi figurait un ensemble de lois psychologiques, où l'intérêt propre qu'avait eu dans ses discours le convive, ne tenait presque aucune place. Mais cela, enlevait-il tout mérite à mes portraits, puisque je ne les donnais pas pour tels? Si l'un de ces portraits, dans le domaine de la peinture, met en évidence certaines vérités relatives au volume, à la lumière, au mouvement, cela fait-il qu'il soit nécessairement inférieur à tel portrait, ne lui ressemblant aucunement, de la même personne, dans lequel 1000 détails qui sont omis dans le premier seront minutieusement relatés. Deuxième portrait d'où l'on pourra conclure que le modèle était ravissant, tandis qu'on l'eût cru laid dans le premier. ce qui peut avoir une importance documentaire et même historique, mais n'est pas nécessairement une vérité d'art. Puis ma frivolité, dès que je n'étais pas seule, me faisait désirer de plaire, plus désireux d'amuser en bavardant que de m'instruire en écoutant, à moins que je ne fusse allée dans le monde pour interroger sur quelques points d'art ou quelques soupçons jaloux qui m'avaient occupé l'esprit avant. Mais j'étais incapable de voir ce dont le désir n'avait pas été éveillé en moi par quelques lectures, ce dont je n'avais pas d'avance désiré moi-même le croquis que je désirais ensuite confronter avec la réalité. Que de fois, je le savais bien, même si cette page de Goncourt ne me l'eût pas appris. Je suis restée incapable d'accorder mon attention à des choses ou à des gens qu'ensuite, une fois que leur image m'avait été présentée dans la solitude par un artiste, j'aurais fait des lieux risquer la mort pour retrouver. Alors mon imagination était partie, avait commencé à peindre. Et ce devant quoi j'avais bâillé l'année d'avant, je me disais avec angoisse, le contemplant d'avance, le désirant, « Sera-t-il vraiment impossible de le voir? Que ne donnerais-je pas pour cela ?» Quand on lit des articles sur des gens, même simplement des gens du monde, qualifiés de « derniers représentants d'une société dont il n'existe plus aucun témoin », sans doute on peut s'écrier « Dire que c'est d'un être si insignifiant qu'on parle avec tant d'abondance et d'éloge !» C'est cela que j'aurais déploré de ne pas avoir connu si je n'avais fait que lire les journaux et les revues, et si je n'avais pas vu l'homme. Mais j'étais plutôt tentée, en lisant de telles pages dans les journaux, de penser « Quel malheur !» Alors que j'étais seulement préoccupée de retrouver Gilberte ou Albertine. Que je n'ai pas fait plus attention à ce monsieur, je l'avais pris pour un raseur du monde, pour un simple figurant. C'était une figure. Cette disposition-là, les pages de Goncourt que je lus, me la firent regretter. Car peut-être j'aurais pu conclure d'elle que la vie apprend à rabaisser le prix de la lecture, et nous montre que ce que l'écrivain nous vante ne valait pas grand-chose. Mais je pouvais tout aussi bien en conclure que la lecture, au contraire, nous apprend à relever la valeur de la vie, valeur que nous n'avons pas su apprécier, et dont nous nous rendons compte seulement par le livre combien elle était grande. À la rigueur, nous pouvons nous consoler de nous être un peu plus dans la société d'un Vinteuil, d'un Bergotte, puisque le bourgeoisisme pudibond de l'un, les défauts insupportables de l'autre, ne prouvent rien contre eux, puisque leur génie est manifesté par leurs œuvres. De même, la prétentieuse vulgarité d'un Elstir à ses débuts. Ainsi, le journal des Goncourt m'avait fait découvrir qu'Elstir n'était autre que le « Monsieur Tiche » qui avait tenu jadis de si exaspérants discours à Swann, chez les Verdurin. Mais quel est l'homme de génie qui n'a pas adopté les irritantes façons de parler des artistes de sa bande, avant d'arriver, comme c'était venu pour Elstir, et comme cela arrive rarement, un bon goût supérieur. Les lettres de Balzac, par exemple, ne sont-elles pas semées de termes vulgaires que Swann eût souffert 1000 morts d'employés? Et cependant, il est probable que Swann, si fin, si purgé de tout ridicule haïssable, eût été incapable d'écrire la cousine bête et le curé de Tours. Que ce soit donc les mémoires qui aient tort de donner du charme à leur société, alors qu'elle nous a plu, est un problème de peu d'importance. Puisque, même si c'est l'écrivain de mémoire qui se trompe, cela ne prouve rien contre la valeur de la vie qui produit de tels génies, et qui n'existait pas moins dans les œuvres de Vinteuil, d'Elstir et de Bergotte. Tout à l'autre extrémité de l'expérience, quand je voyais que les plus curieuses anecdotes, qui font la matière inépuisable, divertissement des soirées solitaires pour le lecteur, du journal des Goncourt, lui avait été conté par ses convives que nous eussions à travers ces pages enviait de connaître et qui ne m'avait pas laissé à moi trace d'un souvenir intéressant. Cela n'était pas trop inexplicable encore. Malgré la naïveté de Goncourt, qui concluait de l'intérêt de ces anecdotes à la distinction probable de l'homme qui les contait, il pouvait très bien se faire que des hommes médiocres eussent eu dans leur vie, ou entendu raconter, des choses curieuses et les contassent à leur tour. Goncourt savait écouter, comme il savait voir. Je ne le savais pas. D'ailleurs, tous ces faits auraient eu besoin d'être jugés un à un. Monsieur de Guermantes ne m'avait certes pas donné l'impression de cet adorable modèle des grâces juvéniles que ma grand-mère eût tant voulu connaître et me proposer comme modèle inimitable, d'après les mémoires de Madame de Beausergent. Mais il faut songer que Bazin avait alors 7 ans, que l'écrivain était sa tante, et que même les maris qui doivent divorcer quelques mois après vous font un grand éloge de leur femme. Une des plus jolies poésies de Sainte-Beuve est consacrée à l'apparition devant une fontaine d'une jeune enfant couronnée de tous les dons et de toutes les grâces, la jeune mademoiselle de Champlatreux, qui ne devait pas avoir alors 10 ans. Malgré toute la tendre vénération que le poète de génie, qu'est la comtesse de Noailles, portait à sa belle-mère, la duchesse de Noailles, née Champlatreux, il est possible, si elle avait eu à en faire le portrait, que celui-ci eût contrasté assez vivement avec celui que Sainte-Beuve en traçait 50 ans plus tôt. Ce qui eût peut-être été plus troublant, c'était l'entre-deux. C'était ces gens desquels ce qu'on dit implique chez eux plus que la mémoire qui a su retenir une anecdote curieuse, sans que pourtant on ait, comme pour les Vinteuil, les Bergotte, le recours de les juger sur leur œuvre. Ils n'en ont pas créé. Ils en ont seulement, à notre grand étonnement à nous qui les trouvions si médiocres, inspiré. Passe encore que le salon qui, dans les musées, donnera la plus grande impression d'élégance, depuis les grandes peintures de la Renaissance, soit celui de la petite bourgeoise ridicule que j'eusse, si je ne l'avais pas connue, rêvé devant le tableau de pouvoir approcher dans la réalité, espérant apprendre d'elle les secrets les plus précieux que l'art du peintre, que sa toile ne me donnait pas, et de qui la pompeuse traîne de velours et de dentelle est un morceau de peinture comparable au plus beau du Titien. Si j'avais compris jadis que ce n'est pas le plus spirituel, le plus instruit, le mieux relationné des hommes, mais celui qui sait devenir miroir et peut refléter ainsi sa vie, fût-elle médiocre, qui devient un Bergotte. Les contemporains le tinstillent pour moins homme d'esprit que Swann et moins savant que Brichot. On peut souvent, à plus forte raison, en dire autant des modèles de l'artiste. Dans l'éveil de l'amour de la beauté, chez l'artiste, qui peut tout peindre, de l'élégance où il pourra trouver de si beaux motifs, le modèle lui sera fourni par des gens un peu plus riches que lui, chez qui il trouvera ce qu'il n'a pas d'habitude dans son atelier d'homme de génie méconnu, qui vend ses toiles 50 francs. Un salon avec des meubles recouverts de vieilles soies, beaucoup de lampes, de belles fleurs, de beaux fruits, de belles robes, gens modestes relativement, ou qui le paraîtraient à des gens vraiment brillants, qui ne connaissent même pas leur existence, mais qui, à cause de cela, sont plus à portée de connaître l'artiste obscur, de l'apprécier, de l'inviter, de lui acheter ses toiles, que les gens de l'aristocratie qui se font peindre, comme le pape et les chefs d'État, par les peintres académiciens. La poésie d'un élégant foyer et des belles toilettes de notre temps ne se trouvera-t-elle pas plutôt, pour la postérité, dans le salon de l'éditeur Charpentier, par Renoir, que dans le portrait de la princesse de Sagan ou de la comtesse de La Rochefoucauld, par Cotte ou Chapelain? Les artistes, qui nous ont donné les plus grandes visions d'élégance, en ont recueilli les éléments chez des gens qui étaient rarement les grands élégants de leur époque, lesquels se font rarement peindre par l'inconnu porteurs d'une beauté qu'ils ne peuvent pas distinguer sur ses toiles, dissimulée qu'elle est par l'interposition d'un poncif de grâce surannée qui flotte dans l'œil du public. Comme ces visions subjectives que le malade croit effectivement poser devant lui. Mais que ces modèles médiocres que j'avais connus eussent en outre inspiré, conseillé certains arrangements qui m'avaient enchanté, que la présence de tels d'entre eux dans les tableaux fût plus que celle d'un modèle, mais d'un ami qu'on veut faire figurer dans ses toiles. C'était à se demander si tous les gens que nous regrettons de ne pas avoir connus parce que Balzac les peignait dans ses livres ou les leur dédiait en hommage d'admiration, sur lesquels Sainte-Beuve ou Baudelaire firent leurs plus jolis vers, si, à plus forte raison, toutes les Récamiers, toutes les Pompadour ne m'eussent pas paru d'insignifiantes personnes, soit par une infirmité de ma nature, ce qui me faisait alors enrager d'être malade et de ne pouvoir retourner voir tous les gens que j'avais méconnus, soit qu'elles ne dussent leur prestige qu'à une magie illusoire de la littérature, ce qui forçait à changer de dictionnaire pour lire, et me consolait de devoir, d'un jour à l'autre, à cause des progrès que faisait mon état maladif, rompre avec la société, renoncer au voyage, au musée, pour aller me soigner dans une maison de santé. Peut-être, pourtant, ce côté mensonger, ce faux jour, n'existe-t-il dans les mémoires que quand ils sont trop récents, trop près des réputations, qui plus tard s'anéantiront si vite, aussi bien intellectuelles que mondaines. Et si l'érudition essaye alors de réagir contre cet ensevelissement, parvient-elle à détruire un sur mille de ces oublis qui vont s'entassant? Ces idées, tendant les unes à diminuer, les autres à accroître mon regret de ne pas avoir de don pour la littérature, ne se présentèrent plus à ma pensée pendant les longues années que je passais à me soigner, loin de Paris, dans une maison de santé, où d'ailleurs j'avais tout à fait renoncé au projet d'écrire, jusqu'à ce que celle-ci ne pût plus trouver de personnel médical au commencement de 1916. Je rentrais alors dans un Paris bien différent de celui où j'étais déjà revenu une première fois, comme on le verra tout à l'heure, en août 1914, pour subir une visite médicale, après quoi j'avais rejoint ma maison de santé.